France Inter.
Bonjour, meilleurs vœux, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de questions politiques, bien sûr, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info la télé et en partenariat toujours bien sûr avec le journal Le Monde. La situation politique n'a pas tellement changé malgré la nouvelle année, les institutions restent bloquées, le prochain budget est espéré pour la mi-février, mais est-ce que le gouvernement va pouvoir avoir le temps de travailler? Est-ce qu'il sera très vite censuré? Décidément, je vous le disais, la situation n'a pas tellement changé. Le problème, c'est que cette instabilité politique menace de plus en plus le tissu économique de notre pays. Quantité d'investissements ont été gelés, les embauches prévues souvent repoussées, sans oublier toutes ces entreprises qui ont déjà commencé à fermer. Il est donc urgent d'agir. Reste à savoir comment. On en parle justement avec la ministre en charge du travail et de l'emploi, une femme de gauche, macroniste de la première heure, confirmée à son poste, soutenue par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Astrid Panossian-Bouvet est notre invitée ce midi dans Questions politiques, en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécard sur France Inter.
Bonjour Astrid Panossian-Bouvet.
Bonjour.
Ravie de vous recevoir sur le plateau de questions politiques. À mes côtés, pour vous interviewer, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonne année Nathalie.
Bonne année à tous, toutes.
Et meilleurs vœux.
Et meilleurs vœux.
Oui.
Et bonne santé.
Et tout, et tutti quanti. Et meilleurs vœux aussi à Françoise Fressos.
Merci et de même.
Du journal Le Monde.
Et tous.
Allez, on ne change pas avec nos bonnes habitudes. On va commencer avec les images de la semaine. Ce qui vous a, toutes les trois, marqué dans l'actualité. Alors, cette fin d'année 2024, ce début d'année 2025. Astrid Panossian-Bouvet, qu'est-ce que vous avez retenu en particulier?
Moi, j'ai souhaité avoir une photo de l'actualité internationale et notamment de ce jour de l'an à Damas, de ce disque jockey sur une place de Damas et de la jeunesse damascène, image qu'on n'aurait jamais pu imaginer, ne serait-ce qu'un mois auparavant, et qui témoigne de cet espoir réel, mais fragile, d'une transition politique après le régime sanguinaire que nous avons connu, d'où la visite qui était la première visite occidentale de haut rang depuis très longtemps du ministre des Affaires étrangères français et allemand vendredi à Damas pour rappeler l'importance d'une transition politique qui inclut la société civile et en particulier les femmes, qui inclut l'ensemble des minorités, en particulier chrétiennes et kurdes, et puis qui garantissent les libertés fondamentales et les droits élémentaires.
Françoise, toute autre image, retour en France, retour dans la politique française avec les vœux du président, un grand classique.
Un grand classique, mais avec une innovation cette fois. C'est ça qui a retenu mon attention. C'est le petit court-métrage qui est paru au début de ses vœux, qui fêtait au fond les réussites françaises, notamment les Jeux Olympiques, Notre-Dame de Paris, et avec un président de la République qui avait plutôt tendance à s'effacer derrière cette réussite collective. Et j'ai trouvé que c'était intéressant sur la façon dont Emmanuel Macron aborde cette année. On sait qu'une majorité de Français souhaite son départ, que la dissolution a été un vrai affaiblissement. Il en prend acte. Je pense qu'il prend acte aussi de son impopularité. Donc c'est beaucoup moins moi-je. Et en même temps, il ne veut pas renoncer à son rôle de président parce que il a aussi cette dimension de chef d'État européen et qui voit quand même ce qui se passe dans le monde et qui voit l'affaiblissement du pays complètement immobilisé et avec tous les risques que ça suppose. Donc il renonce pas à son cap. Hein. C'est plus d'emplois, plus de croissance, plus d'attractivité. Sa difficulté, c'est comment essayer de le faire accepter aux Français. Donc l'idée de je vous consulterai sur les choses importantes avec ce risque si vous passez par le référendum, ça peut être comme la dissolution, c'est-à-dire un rejet absolument
total
massif du président.
De la personnalité du président.
Et ça montre en fait l'étroitesse de son jeu, mais aussi l'idée que dans ce monde qui devient de plus en plus dangereux, on a quand même, nous, un vrai risque de déclassement si on continue sur la pente dans laquelle on est.
Allez, troisième et dernière image, la vôtre, Nathalie Sincric.
C'est une image de...
Petit pas de côté, vous.
Cannabis thérapeutique. Oui, moi, je suis moins grandiose que...
Mais on accepte tout le monde.
J'ai été interpellée, comme on dit, par une auditrice de France Inter l'autre jour, s'inquiétant parce qu'elle prend du cannabis thérapeutique dans le cadre d'une expérimentation parce qu'elle a des douleurs que rien d'autre ne peut
soulager,
et se demandant si c'était fini. Alors, il ne faudrait pas, je vais vous dire où on en est. Ça avait été voté, ça devait être dans le budget de la Sécurité sociale, il y a eu la dissolution, il n'y a plus eu de budget, il y a eu un nouveau budget. Bref, on en était à un risque que le 31 décembre, l'expérimentation soit terminée. Elle a été prorogée de 6 mois. Mais sur ces 6 mois, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Version ministère de la Santé, on prolonge de 6 mois, et à l'issue de, au milieu de ces 6 mois, on verra si on autorise ou non. Et côté des médecins, une inquiétude. C'est en fait, parce qu'on leur a dit plus ou moins, vous avez encore le droit pendant 6 mois à l'hôpital, mais c'est pour sevrer les malades. Sevrer les malades, ça veut dire les habitués à ne plus en avoir. Donc, juste une chose, dire que c'est une pratique qui est extrêmement encadrée. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on va acheter, c'est pas du cannabis, pour dire clair, c'est un médicament. Que deuxièmement, il y a pour l'instant une expérimentation sur 3000 personnes, mais que virtuellement, il y a 250 000 à 300 000 personnes qui pourraient le prendre dans le cadre des scléroses en plaques, des cancers, de maladies extrêmement graves. Et c'est prescrit quand on n'a pas d'autres solutions thérapeutiques. C'est-à-dire, c'est pas pour s'amuser. Et en gros, juste une chose, c'est de se dire que on parle de dissolution, on parle d'instabilité politique, on parle d'un certain nombre de choses, mais il ne faudrait pas que la santé, et ça c'est concret, fasse les frais d'un problème de sécurité intérieure, ou pour de la symbolique, du genre, on ne va pas commencer à dépénaliser, on ne va pas commencer, la lutte contre le narcotrafic c'est important, mais il y en a. Donc en gros, il y a un enjeu là-dessus, et il y a 6 mois pour faire la preuve et aider les malheureuses personnes qui s'inquiètent pour la suite.
Ça vous a fait réagir, j'ai l'impression, Astrid Panossian.
Oui, tout à fait, parce que il y a les problèmes politiques, économiques, mais il y a aussi les problèmes du quotidien, et notamment la question de la douleur de nos concitoyens qui sont malades, la gestion de la douleur et des douleurs qu'on appelle rebelles, en cancéreux, les raideurs musculaires liées effectivement à des maladies neurologiques. Je pense que le ministre de la Santé, Yannick Neuder, qui est également médecin, a été très clair sur cette question. Les résultats sont probants, tant sur cette expérimentation comme ce qui est fait dans d'autres pays qui sont plus en avance sur nous. Il faut bien faire une différenciation entre le cannabis thérapeutique et celui qu'on appelle récréatif, et être d'abord là pour soulager la douleur et les douleurs réfractaires et rebelles.
Et la majorité des pays européens, et la majorité des États des États-Unis, exactement, on les considère dans les rapports parlementaires comme extrêmement en retard. Donc
c'est pour ça que je vous entends bien, ça veut dire que globalement, vous le dites à l'instant, le ministre Neuder dit que c'est important, ça va être maintenu en fait.
Il s'est déclaré effectivement en faveur de la prolongation. Et il faudra que justement les discussions parlementaires qui vont commencer puissent confirmer qu'on n'est pas simplement dans une éternelle prolongation, mais dans quelque chose
qui se confirme,
et qui puisse se diffuser dans les pratiques thérapeutiques de nos soignants, tout à fait.
Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider, et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer.
Alors, Françoise Fressoz en parlait un instant. Les vœux du président Macron, c'est la 8e fois qu'il se plie à l'exercice, avec le souhait exprimé cette année de faire trancher certains sujets par les Français. Ça s'appelle des référendums. Régulièrement, il a évoqué cette idée. On a envie de lui dire cette fois-ci chiche. Astrid Panossian-Bouvet, est-ce qu'un référendum sur la très contestée, toujours réforme des retraites, est quelque chose d'envisageable et quelque chose d'envisagé ?
Je pense qu'avant d'avoir un référendum, alors je pense que d'abord ça peut être référendum comme ça peut être, on l'a vu sur la fin de vie, des conventions citoyennes dans lesquelles il y a d'abord un diagnostic partagé. Je pense que c'est absolument indispensable, y compris pour les retraites. Il y a besoin d'avoir effectivement un diagnostic partagé. Il y a besoin d'avoir aussi, parce qu'on l'a vu sur l'assurance chômage, une vraie discussion avec les partenaires sociaux, et c'est ce qui est souhaité par le Premier ministre, par Catherine Vautrin, et c'est aussi la démarche dans laquelle je m'inscris depuis que je suis ministre du Travail, pour ensuite envisager ce qu'on appelle des aménagements justes et raisonnables. Encore une fois, quand on parle retraite...
Mais ça, on va en parler, mais oui, donc, référendum sur la réforme des retraites, c'est inenvisageable.
Moi, je pense que c'est d'abord, parce que c'est d'abord effectivement un diagnostic partagé et une discussion à avoir avec les partenaires sociaux.
Alors, discussion justement, est-ce que vous allez accepter de discuter de cette réforme des retraites avec les députés socialistes qui menacent d'ores et déjà de censurer le gouvernement s'ils ne sont pas entendus sur cette question?
Il faut savoir d'abord de quoi on parle. Quand on parle des retraites, on parle d'abord du travail et de l'anxiété que crée la question des retraites auprès de nos travailleurs seniors. On s'est habitué dans notre pays depuis Raymond Barre à mettre les seniors en dehors de l'entreprise pour faire de la place aux jeunes. Et résultat, on a un des taux d'activité les plus bas, que ce soit pour les jeunes, que ce soit pour les seniors, toujours aujourd'hui. Et c'est une piste d'amélioration considérable. C'est un sujet d'anxiété pour ceux qui exercent des métiers pénibles, et il y en a. Et il faut se dire qu'il y a des métiers qui ne sont pas tenables toute une vie. On voit qu'il y a 30% de nos ouvriers non qualifiés dans la manutention, dans le BTP, qui partent en inaptitude professionnelle entre 51 et 59 ans. Même chose pour nos aides à domicile. Et puis, c'est un sujet d'anxiété pour les femmes qui cumulent, pour beaucoup d'entre elles, travail partiel, carrière hachée. Donc, c'est d'abord de
Mais
ces sujets-là.
Mais vous répondez pas à ma question.
Je réponds à votre question parce que nous avions souhaité, avec Michel Barnier, lancer une concertation à laquelle les syndicats, comme le patronat, avaient dit OK sur des aménagements qu'on appelle justes et raisonnables, sur les carrières pénibles, les femmes et les pensionnés.
Alors, question très, très précise. Le PS dit, nous, on ne discutera pas tant que la réforme n'est pas suspendue au préalable. Est-ce que cette suspension, elle peut être dans la déclaration de politique générale du Premier ministre ou vous l'excluez-vous?
Alors, le Premier ministre souhaite qu'il y ait une discussion sans tabou, mais il ne souhaite pas qu'il y ait des conditions préalables avant cette discussion
sans tabou.
Donc, pas de suspension. En tout cas, c'est ce qu'il a souhaité.
Pas de suspension, pas
d'abrogation. Voilà. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait une discussion sans tabou, ça c'est clair, mais sans conditions préalables. Et autour d'un diagnostic partagé, pour qu'il n'y ait pas justement ces accusations et ces procès comme il y a eu en 2023 sur des hypothèses qui ne marchent pas, il y a finalement un déficit, mais il n'y a pas de déficit, etc. Et ensuite, laisser la main aux partenaires sociaux avec quand même un impératif, un sujet quand même de finances publiques, parce que abroger la réforme de 2023 comme celle de 2014 qui était demandée et par la France Insoumise et par le Rassemblement National lors de leur niche parlementaire, c'est un déficit supplémentaire de 4 milliards d'euros dès l'année prochaine et de 15 milliards d'euros en 2030. Et un sujet aussi de compétitivité et de coût du travail, parce que la retraite de base plus la retraite complémentaire, c'est 28% du salaire, des cotisations salariales chaque mois de nos concitoyens. Et donc il faut aussi avoir en jeu ce jeu de contraintes, mais ayons cette discussion.
Alors, combien de temps vous donnez pour cette discussion, puisque ça avait commencé avec la retraite à points, ça a été interrompu, ça a recommencé. Là, vous dites, on va reprendre tout à zéro, mais on va discuter avec les partenaires sociaux, tout en disant que c'était effectivement, ça creuse le déficit. En gros, vous pensez à atterrir dans combien de temps?
Vous commencez quand d'ailleurs et vous finissez quand? Quand est-ce que vous commencez à discuter?
Ça, je laisse le soin au Premier ministre de faire les annonces nécessaires dans le cadre de la déclaration de politique générale. Mais il y a une méthode à laquelle il est attaché, Catherine Vautrin également, et moi également, qui est le diagnostic partagé et la part importante donnée aux partenaires sociaux. Et je pense qu'il faut aller vite. Après, il ne faut pas se raconter d'histoire, parce qu'une retraite
vite,
à point...
C'est 6 mois, c'est 1 an, c'est 2 ans
Je pense qu'il faut aller 3-4 mois, en tout cas, parce qu'il y a quand même... Il y a quand même, sur la base de 2023, on sait qu'il y a des améliorations qui peuvent être portées sur un certain nombre de sujets. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas se raconter d'histoire non plus. Là, et même Marie-Lise Léon l'a dit, une réforme à point, c'est entre 10 et 15 ans de mise en œuvre, avec aussi une vraie complexité dans le calcul. Mais ça peut être, pourquoi pas, une perspective, un système cible. Mais encore une fois, ne pas se raconter d'histoire. La Suède, elle a mis 15 à 20 ans pour créer ce système à point. tout en ayant des aménagements intermédiaires. Pourquoi pas ? Mais ça, je ne souhaite pas préempter une discussion qui appartient d'abord aux partenaires sociaux.
Vous pensez, quel est le paramètre qui peut bouger ? Est-ce que c'est sur la pénibilité que vous pensez que c'est là-dessus qu'il peut, il faut porter le maximum d'efforts ? Est-ce que c'est sur l'égalité homme-femme ? Est-ce que l'âge de 64 ans, pour certaines catégories, pourrait être remis en cause
Ou en tout cas présenté, oui, différemment ?
Moi, je pense que le sujet, c'est autour des carrières pénibles. Voilà, je le pense.
Mais la pénibilité, on en entend parler depuis 10 ans.
Oui, mais
ça n'a jamais été. On n'a jamais réussi à trouver une solution.
Mais c'est le vrai problème. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, comme je dis, près d'un tiers de nos ouvriers non qualifiés qui partent en inaptitude professionnelle. Ça veut dire qu'ils sont cassés et ne peuvent pas continuer entre 51 et 59 ans pour aller jusqu'au terme et arriver en retraite. C'est ça le problème. Et quand vous dites les femmes, c'est souvent lié. Parce que ce sont souvent aussi les femmes qui, 80% des gens qui travaillent à temps partiel subis aujourd'hui, ce sont des femmes. Elles cumulent et les carrières hachées, et les amplitudes horaires, et des métiers aussi pénibles au niveau des postures, des ports de charge, dans, je pense notamment au métier du lien et du métier du soin.
Mais si je vous entends bien.
Donc ce sont ces sujets-là, je pense qu'il faut mettre sur la table. Parce que, encore une fois, la réalité des métiers et la réalité de la retraite, elle est différente en fonction de la vie au travail qu'on a pu exercer.
Donc si je vous entends bien, là, vous fermez la porte aux députés socialistes et vous dites tant pis s'ils votent la censure.
Non, moi je ferme la porte à personne. Je dis simplement que pour entrer dans une discussion de bonne foi, il ne faut pas avoir... Surtout quand on dit que cette discussion sera sans tabou, je reprends les termes du Premier ministre, il ne faut pas rentrer avec des conditions préalables. Et je pense qu'il y a du grain à moudre, notamment sur les sujets des pénibilités et des carrières des femmes et des polypensionnés. Et des polypensionnés parce qu'il y a un sujet aussi pour les gens qui
relèvent de
régimes de retraite différents.
Et si en plus on va parler du chômage et du RSA, est-ce que vous considérez globalement que philosophiquement, ou comme l'ont dit un certain nombre de personnes, la France ne travaille pas assez, les Français ne travaillent pas assez par rapport à leurs concurrents européens, ou sans aller même jusqu'à leurs concurrents chinois, ou d'autres endroits.
Ça vous fait sourire, Madame la Ministre.
On se voile la face en se disant... Il va falloir travailler
Écoutez,
plus.
Quand vous, moi, je pense qu'il y a un sujet de quantité de travail. Effectivement, la quantité de travail, c'est quand même le facteur et de création de richesse et le garant de l'indépendance d'un pays. Et quand vous revenez sur, effectivement, des statistiques, on travaille 100 heures de moins en moyenne par an par rapport à la moyenne de l'Union européenne. 60 heures de moins par rapport aux Allemands. Et donc, le sujet, c'est effectivement...
De mieux rémunérer le travail, peut-être.
C'est deux sujets, effectivement. C'est deux sujets. Le premier, c'est celui du travail. Tout au long de la vie, on en parlait en début d'émission avec, nous avons une insertion professionnelle des jeunes qui est plus difficile et plus tardive, et puis on a une difficulté de maintenir nos seniors sur le marché du travail, ce qui fait que quand ils arrivent au chômage, c'est une vraie galère avec un vrai sujet de vigilance du coup sur, on va en discuter, mais les plans sociaux pour que ça ne tombe pas exclusivement sur les seniors.
On va en parler.
Ça c'est un premier point. Et puis il y a le travail qui paye, et je pense que, et on en a discuté lors des débats budgétaires récent à l'automne, on a une vraie difficulté aujourd'hui en France avec un coût du travail qui est très élevé pour l'employeur et un salaire net dans la poche du salarié qui est très faible. Pourquoi ? Parce qu'on appelle ce coin socialo-fiscal de salaire différé qui part en particulier dans les retraites. Quand je parle de 28% des cotisations salaires, voilà. Et c'est ces sujets-là dont il faut qu'on discute. Moi, je veux aussi un choc de l'offre sur les salaires
Crois que c'est le gouvernement Attal qui avait mis ce sujet sur la table, on voit que c'est extrêmement difficile de le faire progresser et qu'au fond, la revendication la plus simple, c'est augmenter le SMIC.
Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça.
Voilà.
Ça ne marche pas comme ça parce que ça ne marche pas comme ça parce que il y a aussi des contraintes qui s'exercent sur les employeurs. Il y a des contraintes de compétitivité dans des marchés ouverts. Et il faut qu'on se pose aujourd'hui la question du financement de la protection sociale autrement que par le travail. Parce que cette quantité de travail qui est insuffisante, elle n'est pas compensée ni par la productivité, ni par la compétence. Parce que quand on regarde aussi la classification de la France par rapport aux pays de l'OCDE en ce qui concerne compétences et productivité, on perd des points. Donc il y a vraiment nécessité de reparler quantité de travail, mais avec un travail qui paye et une montée en gamme des compétences, des qualifications.
Mais tout ça, on peut le faire en fin de deuxième quinquennat ou c'est vraiment un chantier de début de président ?
Alors, je pense qu'il faut le lancer dès maintenant.
Mais peut-être pas dans la situation politique dans laquelle on est aujourd'hui.
Je pense que ce sont des sujets qui relèvent beaucoup des partenaires sociaux. En ce qui concerne, par exemple, la question de la montée en compétences avec la formation professionnelle, là, il y a un vrai sujet aujourd'hui de faire que la formation professionnelle continue, elle réponde beaucoup mieux aux besoins des compétences et des métiers des entreprises. Même chose pour le financement de la protection sociale. Et je pense que cette conférence de financement qui est appelée de la part des partenaires sociaux ou de partis politiques, elle peut... Si tant est que les partis politiques ont aussi le courage d'aborder un certain nombre de questions,
par exemple, est-ce qu'il faudrait mobiliser la TVA ou pas, plutôt que
l'indexation des retraites, des retraités, comme on l'a vu, qui avait été posé une vraie difficulté, mais ça fait partie des sujets qui doivent être aujourd'hui sur la table.
Mais pour l'instant, les partenaires sociaux, ils vous ont alerté, ça c'est une lettre qui date du 17 décembre dernier, qui vous disait, voilà... trouver une solution à cette crise politique parce qu'elle commence à coûter très cher à notre tissu économique. Pratiquement tous les partenaires sociaux, pratiquement tous les partenaires syndicaux et patronaux ont signé cette lettre, peut-être à l'exception de la CGT.
À l'exception de la CGT, tout à fait.
Est-ce que vous leur avez répondu et qu'est-ce que vous leur avez répondu à cette lettre ?
Alors, je n'aurais pas répondu formellement parce que j'ai un dialogue continu et la force, c'est aussi l'informel. Mais moi, je les comprends parfaitement. Un chef d'entreprise, il a besoin de stabilité pour faire ses budgets, ne serait-ce que de 2025. Donc ça, c'est un premier point. Et les syndicats, ils ont besoin aussi d'un minimum de stabilité pour pouvoir avancer et défendre les droits des salariés. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui, et on le voit. Peut-être qu'on va discuter de la situation économique.
Mais d'ailleurs, comment vous la définissez en ce moment, cette situation économique ?
D'abord, depuis juin, parce que les entreprises n'aiment pas les situations électorales. Donc depuis juin, alors à la fois, les européennes, ensuite la dissolution, ensuite le fait qu'on n'ait pas de budget. Qu'est-ce qu'elles font, les entreprises ? Eh bien, elles lèvent le stylo sur les décisions importantes qui sont les investissements, qui sont les recrutements. Et ça, on
et
le
les
voit aujourd'hui. Et les commandes. Mmh. Et les commandes. Et donc ça, on le voit sur l'emploi, parce que je veux bien que le ministère du Travail soit considéré comme un ministère social, mais l'emploi, ça dépend aussi du carnet de commandes et de la confiance qu'a le chef d'entreprise.
Mais quand vous dites « on le voit », vous avez des chiffres, là ?
Bien sûr. Alors, oui, tout à fait. Et des chiffres qui sont d'ailleurs plus nuancés qu'on le croit, parce qu'on parle beaucoup des PSE, et on voit effectivement qu'il y a une augmentation... Les plans sociaux, on voit qu'il y a une augmentation de plus de 30% effectivement des personnes au troisième trimestre, des personnes à France Travail qui s'inscrivent suite à un PSE ou à un licenciement économique. Ça, c'est un chiffre qui maintenant est équivalent à celui de la crise sanitaire. Donc, c'est un vrai sujet. On voit une augmentation de 2 points du taux de chômage des jeunes. Donc, ça, c'est un vrai sujet aussi.
Qui monte à combien, alors, à 27 ?
Qui monte, j'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, il monte. C'est pour ça que l'accord assurance chômage qui a été signé en novembre, qui va mieux protéger les jeunes, il arrive à point nommé. Et puis, on voit, et c'est ça qui fait que c'est nuancé, un rythme quand même qui reste soutenu, qui se ralentit d'embauche, au moins le mois qu'on suit avec les URSSAF.
Vous dites qu'il y a un retournement sur le marché de l'emploi, ou vous dites que c'est juste des accidents ?
Non, là, moi, je dis pas qu'il y a un accident. Je pense qu'il y a une vigilance très forte à avoir, parce qu'on est à la fois sur des restructurations au long cours, on le voit sur l'automobile, sur la grande distribution, avec des modèles économiques qui sont totalement en vision et en refonte, idem pour la chimie. Mmh. Et puis, il y a la situation, cette espèce de triangle des contraintes, que ce soit les finances publiques dégradées, que ce soit la situation économique qui se durcit, que ce soit l'instabilité ou l'incertitude politique, qui fait que, on lève le stylo, comme je l'ai dit, sur les investissements, les commandes, les recrutements.
On va payer combien de temps la dissolution, si j'ose dire ? Parce qu'il y a un certain nombre de facteurs
La question est sensible.
Mais quand vous insistez sur l'instabilité, que ce soit l'instabilité fiscale, l'instabilité de perspective pour les entreprises, et c'est normal, parce que même les citoyens épargnent plus en se demandant ce qui va se passer. Vous pensez que ça va nous prendre combien de temps pour pouvoir essayer ? Alors, je vous demande pas de lire dans le marc de café.
Ben, c'est un peu ça quand même.
Je vous demande quel est le facteur vous imputez à cette... Est-ce que de toute façon, ça nous serait arrivé ? Ou est-ce que là, c'est quand même plus grave ? Je sais que c'est une question à laquelle il est impossible de répondre.
Non, moi, j'avais, dès le deuxième jour de l'annonce de la dissolution, j'avais dit que cette demande de clarification allait aboutir à plus de confusion, quitte à même abîmer notre démocratie et notre capacité de décision collective.
Donc, c'était bien vu.
très sévère sur cette décision, et je me réjouis qu'il y ait au moins la reconnaissance que les effets n'ont pas été attendus. Je pense que il y a une responsabilité immense des partis politiques aujourd'hui, et je veux les contraster avec les partenaires sociaux. On l'a vu sur l'assurance chômage, qui est un sujet potentiellement clivant, sur lequel ils sont arrivés à serrer les boulons là où il faut. Je pense notamment à l'assurance chômage de nos 77 000 concitoyens transfrontaliers, avec un déficit de 800 millions d'euros par an, tout en à la fois baissant légèrement la contribution des employeurs et en améliorant la protection des jeunes. Voilà. Donc c'est possible, mais ça demande, dans un pays qui n'est pas habitué ni à la culture du compromis, ni à la culture de la coalition parlementaire.
Mais c'est quoi les partis ?
Beaucoup,
on a l'impression que c'est la gauche, en tout cas le Parti Socialiste, puisque c'est eux qui peuvent stabiliser.
Je n'attends rien, ni de la France Insoumise, ni du Rassemblement National. Ils ont leur légitimité, naturellement, puisqu'ils ont été élus par le vote, par un certain nombre de nos concitoyens, et il faut les respecter en tant que tels. Mais je n'attends pas de leur part une quelconque capacité à être dans une culture de loi de la coalition.
Est-ce qu'on voudrait savoir là maintenant ? C'est ce que peut faire
l'État.
Donc
je pense que c'est effectivement au Parti Socialiste, à un moment donné, de pouvoir...
Vous dites qu'il ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il ne prend pas ses responsabilités aujourd'hui. Je pense que là, il y a nécessité pour des partis qui ont exercé des responsabilités dans des moments difficiles, voire très difficiles. On va parler de Charlie à la fin de l'émission. Et donc, moi, j'ai aussi en mémoire la présidence Hollande et le ministre Bernard Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, ils ne sont pas nécessairement à la hauteur, en tout cas dans leur réclamation politique publique, de l'esprit de responsabilité.
Alors, je voudrais qu'on revienne sur des choses beaucoup plus concrètes, pardonnez-moi, et sur la situation économique qui inquiète forcément une grande partie des Français, une grande partie de nos auditeurs. Déjà, par rapport à ce qu'on disait juste avant, est-ce que vous parlez de chômage de masse, par exemple ? Il y a beaucoup d'économistes qui disent que c'est le retour du chômage de masse. Est-ce que c'est une expression excessive, selon vous ?
Non, c'est une expression qui est excessive. Moi, je ne suis pas du tout dans la de bois. Donc je vous dirai les choses.
Sinon,
on est toujours autour du 7,2, peut-être on sera à 7,5 de taux de chômage.
On dit 8 à la fin de l'année 2025.
8, enfin dire entre 7,5 et 8, c'est par rapport à 12% qui était un véritable taux de chômage de masse. Ça c'est du chômage de masse. Par ailleurs, on a, et c'est pour ça que la vision est plus contrastée, c'est qu'on a un taux d'emploi et un taux d'activité, c'est-à-dire les gens qui sont en capacité à travailler et qui travaillent, qui n'a jamais été aussi élevé en France depuis qu'il est mesuré. Donc je pense que, je dis simplement aujourd'hui qu'il y a une situation dégradée des finances publiques. Il faut faire attention que le budget n'ait pas un effet qu'on appelle récessif sur une situation qui est plus difficile encore, qui est déjà difficile. Et il y a nécessité aujourd'hui, je pense, aux partis politiques de gouvernement de se ressaisir pour donner un minimum de stabilité.
Alors sur les mesures concrètes, vous dites, il y a quand même un risque de retournement de marché de l'emploi, et on voit que les crédits pour l'apprentissage diminuent, notamment pour les grandes entreprises. En tant que ministre du Travail, est-ce que vous dites que c'est une erreur ou
Alors j'assume totalement comme j'ai assumé dans ce premier budget qui n'a pas été
des allègements de charges.
Les allègements de charges, comme avec un point de compromis qui a finalement été trouvé, comme j'assume une baisse des crédits du ministère de l'Emploi. Je pense que un bon ministre, c'était autour de 4 milliards d'euros parce que j'estime tout simplement qu'un bon ministre, c'est pas juste un ministre qui a sa loi et qui a des crédits en haut. Sinon, on serait les champions du monde et de la norme. Et des finances publiques dégradées. Sur l'apprentissage, je pense que ce que nous avons trouvé, c'est un bon équilibre. Parce qu'effectivement, avant, c'était 6 000 euros d'aide à l'embauche pour les apprentis, pour tout le monde. Là, on a décidé de focaliser sur les entreprises de moins de 250 salariés, en baissant de 6 000 à 5 000, parce que 80% des apprentis sont dans des entreprises de moins de 250 salariés. Et de continuer néanmoins une aide de 2 000 euros pour les entreprises de plus de 250 salariés. Il y avait une autre approche qui aurait pu être recommandé, que je ne suivais pas, qui était de vouloir différencier les aides en fonction du niveau de qualification, oui, qualification des apprentis. Ça, je ne le souhaite pas, parce qu'un tiers aujourd'hui de nos étudiants qui sont en master le font grâce à l'apprentissage, parce que ça permet à nos PME aussi d'aller recruter ce type de profil pour continuer à monter en compétences dans notre tissu économique. Et puis, chose à laquelle moi je suis très très sensible, c'est même la CAPEB, la Fédération Professionnelle du Bâtiment, qui le disait, surtout ne touchez pas aux licences et aux masters, parce qu'on ne veut pas que l'apprentissage soit vu comme la voie de garage dans un pays qui reste totalement obsédé par la question des diplômes.
Nathalie. Et justement sur le... Alors, continuons les dossiers. L'apprentissage, on a compris que vous étiez...
Donc l'apprentissage, cette réforme, elle permet 1 milliard d'euros d'économies, tout en préservant, je pense, le système d'apprentissage de France.
Oui. Manifestement, il y a aussi un certain nombre d'économies qui sont faites. Il y avait 500 fonctionnaires qui devaient être...
500 agents.
500 agents, pardon,
de France Travail.
Agents qui devaient être supprimés, qui étaient France Travail. Et ce que vous avez dit, enfin j'ai cru vous lire, disant finalement c'est pas un problème, alors même qu'il y a un afflux de personnes qui vont avoir besoin d'être suivies et d'être aidées, qu'on pourrait bien s'en sortir.
Alors attendez, on va mettre à plat tous les trucs, parce que là on change vraiment de gros dossier. Donc en fait on a effectivement les bénéficiaires du RSA qui arrivent à France Travail. Ça fait quand même une petite surchauffe pour France Travail, anciennement Pôle Emploi, avec 1,2 million, dites-moi si je me trompe, de bénéficiaires supplémentaires. Et effectivement, on n'a pas beaucoup d'agents supplémentaires à France Travail qui vont être mis en face, un millier, je crois, seulement, et encore progressivement 2025, pour cette surcharge de travail. Donc, comment on fait ? Est-ce qu'il y a plus de un millier seulement de personnes qui vont arriver ?
Alors, avant de répondre à votre question sur les moyens, je voudrais revenir sur la question du taux de chômage en France et du taux d'activité. Parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles on est en retard par rapport au mieux disant du taux d'activité en Europe, c'est la question des seniors, c'est la question des jeunes, et c'est la question des personnes qui sont durablement éloignées du marché de l'emploi. Il faut savoir que 42% des personnes qui sont inscrites au RSA le sont 7 ans plus tard. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de meilleure insertion, d'accompagnement professionnel, socio-professionnel ou social des personnes qui sont inscrites et qui sont bénéficiaires du RSA. En ce qui concerne la réforme de France Travail aujourd'hui, la réforme, c'est justement d'organiser tous les acteurs qui s'occupe de l'emploi en France. Parce que vous parlez de France Travail, mais il y a aussi les missions locales, auprès desquelles sont inscrites les 200 000 jeunes qui font partie des 1,2 million qui vont être inscrits.
Oui,
il y a les départements qui ont en charge le RSA. Il y a les régions qui ont en charge la formation professionnelle des personnes en activité.
Donc vous allez créer de nouvelles catégories.
C'est d'organiser d'abord cette gouvernance au niveau national, au niveau régional, mais au niveau local aussi. Parce que l'on voit, on a fait des expérimentations dans 49 départements. Très intéressant de voir que sur les 70 000 personnes, 60% ont d'abord un niveau infra-bac. Plus de 40% des gens disent qu'ils ont des problèmes de mobilité ou des problèmes de garde d'enfants.
Ou ça, des problèmes
ce sont
de
des
santé.
Sujets et 30% des problèmes de santé. Vous avez tout à fait raison de le dire. Et donc ça, c'est des sujets qui peuvent être traités au niveau local, garde d'enfants et transport. Et donc, voilà. Donc, il s'agit vraiment de réorganiser et de mieux coordonner.
Ça fait un agent pour combien de personnes ? C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est qu'on a l'impression qu'il y
en
a plus.
En fait, c'est pas que France Travail qui va s'occuper. Puisque aujourd'hui, toutes les personnes seront inscrites d'abord à France Travail. D'accord ? Donc, ce sera alors qu'aujourd'hui, les bénéficiaires du RSA, seuls 40% ont été inscrits. Donc l'ensemble des bénéficiaires du RSA et ceux qui sont en mission locale seront inscrits pour qu'on ait enfin une vision exhaustive à la fois des personnes qui sont activement en recherche et des personnes qui sont...
On est d'accord, ça.
Il y aura une étude de l'INSEE qui sera publiée en mai prochain pour voir justement les effets de bord à la fois en termes de taux d'activité et en effet d'augmentation du
chômage.
Plus
d'un million de personnes au chômage,
c'est énorme. Non, parce que je parlais... D'abord, on aura 2 ans pour... Voilà, accompagner, sachant qu'on aura 3 mois pour accompagner les flux entrants. Ça, c'est un premier point. Parce que l'expérimentation que je mentionnais dans les 49 départements, qu'est-ce qu'elle a montré ? Elle a montré qu'au bout de 12 mois, 42% des personnes sortaient du RSA.
Alors moi, j'ai 32%, pardonnez-moi.
Non, je vous redonnerai les chiffres, et ça, j'en suis. C'est 42% sortaient définitivement. 32%, c'est ceux qui sont en emploi durable. Mais après, on sort du RSA à 42%. Et donc, ça, c'est quelque chose qui montre que plutôt que de se donner bonne conscience à bon compte en donnant une allocation de 650 euros à des personnes qu'on met plusieurs mois à voir avant de pouvoir trouver une orientation, là, on essaie vraiment de les accompagner.
Mais pour reprendre la question de Nathalie, vous avez le sentiment quand même qu'avec un millier d'agents supplémentaires, ça va suffire.
Mais c'est pas que un millier de c'est pas que simplement France Travail.
Les syndicats
Travail.
Sont très inquiets à France Travail.
On va parler de France Travail après. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on coordonne les agents des conseils on se coordonne avec les agents des conseils départementaux. Comment on se coordonne avec les agents des missions locales? Il n'y a pas que France Travail. France Travail est effectivement en première ligne, mais il y a un certain nombre d'acteurs. Et comment est-ce qu'aujourd'hui, et c'est ça la force, on les fait travailler en réseau. Ensuite, France Travail. Moi, j'entends bien, effectivement, ce qui était envisagé, cette réduction de moins 500 personnes travaillant chez France Travail.
Dans le budget Barnier
qui a été censuré. Ça représente 1% d'abord du nombre d'agents. On est à 55 000 agents, après une augmentation du nombre d'agents de ces 10 dernières années. Et enfin, la contribution de l'État que verse chaque année l'État à France Travail, elle restait à plus de 1,250 milliard. Donc les efforts étaient là. J'entends la crispation autour des moins 500 ETP. Je pense qu'il faut travailler
ETP,
avec
équivalent temps plein,
excusez-moi. Je pense qu'il faut l'entendre et il faut travailler avec France Travail. Mais en tout cas, moi ce que je veux dire ici,
enfin vous les acceptez les 500 en moins, vous considérez que on peut faire.
Moi je me suis battue
vous battez
que,
pas pour les récupérer.
Moi, je me suis battue pour que la contribution de l'État, conformément à ses engagements, justement, partenaires sociaux, l'UNEDIC, soit la même, c'est-à-dire 1,250 milliard, comme l'année dernière. Voilà. Ensuite, est-ce que cette baisse de moins 500 est absorbable, puisqu'on a augmenté significativement ces 10 dernières années les effectifs? Ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et enfin, il ne faut pas transiger sur la qualité de l'accompagnement, quitte à ce que le rythme de progression... je veux pas.
Il faut transiger ou pas sur la question des activités qu'on leur demande de manière obligatoire.
Alors, il y a eu aussi beaucoup de polémiques sur les 15 heures. J'ai vu qu'on avait ressorti l'article de la convention. Les 15 heures, c'est pas du travail forcé, c'est pas du travail gratuit, c'est de l'aide à la rédaction des CV.
Ils le prennent mal,
c'est
en fait.
De la
c'est pour
formation.
Ça que je
vous
pose la question.
Non, alors non, justement, l'expérimentation montre que, au contraire, il y a une forme de considération. On se sent considérant et on gagne en estime de soi, on gagne en confiance de soi parce qu'on est enfin reçu dans une démarche 360 justement où on regarde et les freins à l'emploi et les freins socio-professionnels type garde d'emploi, type garde d'enfants, type transport ou des freins sociaux. Et vous avez eu tout à fait raison de dire qu'il y a aussi des problèmes de santé parmi nos bénéficiaires du RSA.
Je voudrais vous poser la question, aujourd'hui, dans la situation économique qu'on est en train de décrire de manière globale, quel est le rôle que doit jouer l'État face à ces entreprises qui bloquent leurs commandes en ce moment? C'est ce qui se passe notamment avec l'effondrerie de Bretagne. Renault qui a bloqué KCC, qui ne s'est pas réengagé. Ça fait tomber cette fonderie qui va devoir probablement fermer. Répond l'État? L'État est actionnaire à hauteur de 15% dans Renault.
Vous avez tout à fait raison de faire la distinction entre l'État quand il est actionnaire et quand il n'est pas actionnaire. Quand il n'est pas actionnaire, moi je ne suis pas non plus retour à l'économie soviétique ou colbertiste, c'est d'abord d'offrir de la stabilité et de rester sur les fondamentaux autour de l'attractivité qui fait qu'on a envie d'investir et de recruter dans ce pays. Quant aux entreprises effectivement où l'État est actionnaire, vous parlez de Renault, 15% au capital, 4 milliards de prêts pendant le Covid, près de 300 millions d'euros d'aide publique. Là, je pense que l'État, et c'est tout le travail que nous faisons avec le ministère de l'Industrie, nous avons été saisis, tout à fait, et par les syndicats. Nous travaillons avec le ministère de l'Industrie sur la question. Je pense que
le ministre de l'Industrie a quand même dit qu'on était dans une situation de blocage. L'État qui donne pas le sentiment de pouvoir faire quelque chose.
Oui, mais je pense que nous sommes, en tout cas, c'est pour ça que la lettre a été aussi envoyée au président de la République, mais l'État actionnaire est en droit de pouvoir demander quelques garanties. Il ne s'agit pas de demander à Renault de continuer à assurer 95% de la production des fonderies de Bretagne. Le repreneur offre aussi de la diversification. Il s'agit simplement de donner un peu de lisibilité aux fonderies de Bretagne.
Parce que Renault dit, mais nous on s'est engagé, c'est plutôt l'Allemand qui respecte pas ses engagements.
Il faut trouver une solution. Il faut trouver, on va pas parler des fonderies, enfin du dossier très précisément, mais il faut trouver une solution. Et moi, je fais effectivement une distinction entre les entreprises où l'État est actionnaire et les entreprises où l'État ne l'est pas et où il y a plus de compromis à trouver.
Petite question que j'ai pas eu le temps de vous poser tout à l'heure sur les traites et qui
vous taraude.
Voilà, qui me taraude. Alors, j'y reviens quand même. Est-ce qu'il faut les désindexer, ces retraites ?
Moi, j'ai eu...
Je précise juste quand même pour qu'on comprenne bien la question, parce que derrière, j'ai compris que si on les désindexait, chaque année, ça permettrait de gagner aux finances publiques 6 milliards d'euros.
Oui.
Sur 5 ans, ça fait 30 milliards d'euros. C'est énorme.
Écoutez, moi j'ai eu pendant le débat budgétaire précédent avec Laurent, mon collègue Laurent Saint-Martin, une position très claire qui était de dire qu'il ne faut pas regarder les retraités comme un monde homogène. Les retraités, comme je dis, c'est à l'image du monde du travail. Voilà, les salariés, c'est pas un monde homogène. Et donc moi je pense que on est en droit de pouvoir demander un effort aux retraités qui peuvent se le permettre.
Est-ce que ça peut être 75% pour l'année qui vient.
En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut qu'on discute. Moi, j'ai été favorable il y a quelques semaines. Je ne vois pas pourquoi je n'y serais pas défavorable. Mais je vois que ça a été aussi un point d'achoppement très fort, tout parti politique confondu, malgré les chiffres fondamentaux que vous donnez. Parce que ça veut dire qu'on fait peser sur les jeunes et sur les actifs.
C'est ça.
Voilà. Et donc, alors que les retraités sont à 75% propriétaires. Le sujet, c'est les petites retraites, des personnes qui ne sont pas propriétaires et qui vont, avec une partie de leur pension, payer leur loyer. C'est ça le sujet aujourd'hui. Et pour eux, il faut continuer à indexer,
je
pense,
les pensions.
Est-ce
que ça veut dire que globalement, vous considérez que dans l'avenir, il faut faire plus attention? Je m'explique. Plus attention quand on aide les entreprises entre celles qui embauchent vraiment et celles qui n'embauchent pas, ce qu'on a appelé la politique de l'offre, plus attention entre les riches et les pauvres, et qu'en gros, le côté, on pense que c'est bon pour la société, pour l'économie, de donner un peu à tout le monde et que ça va marcher, que ça va ruisseler.
Il va falloir faire du sur-mesure.
Est-ce que c'est finalement pas quelque chose qui, dans une période de crise, et quand on vient de la gauche, doit être mis en question?
Ah, mais moi, je pense... De toute façon, qu'il faut toujours faire attention avec l'argent public. De toute façon.
Non, mais faire
toute
attention, façon. C'est des ravoirs. Non, mais
moi, j'étais pour l'introduction d'une conditionnalité, notamment sur la question des branches qui ne respectent pas les minima. Ça, c'est quelque chose qui a été voté par le PLFSS. Et je suis très heureuse même que le groupe Renaissance ait voté finalement cette proposition. Et donc ça, c'est quelque chose... Moi, je continue à voir les branches qui ont des sujets sur lesquels la négociation salariale n'avance pas, minima sociaux longs comme le bras, etc. Ça, je continue. Et ça peut être un moyen de faire avancer les choses. Et je pense effectivement que sur la question des aides publiques, je suis d'accord avec ce que disait Michel Barnier, qui est qu'il faut donner à voir les aides publiques dont bénéficient aujourd'hui les entreprises pour qu'elles puissent rendre des comptes. Ça ne me semble pas totalement légitime. En tout cas, rendre des comptes sur l'aide publique qui est faite, notamment sur tout ce qui est innovation sur certains sites.
Oui, Astrid Panossian-Bouvet, on a appris dans la presse cette semaine que vous aviez été maintenue au gouvernement, donc au poste de ministre du Travail, grâce au soutien de Bruno Retailleau, ce qui m'a un peu surpris. Je me dévoile. Vous le connaissez depuis longtemps, Bruno Retailleau? C'est quel lien? Qu'est-ce que vous avez en commun?
Objectivement, je pense pas que c'est que grâce à Bruno Retailleau que j'ai été maintenue au gouvernement. Je pense que c'est à mon talent et je pense que c'est d'abord à la confiance que j'ai su créer avec les partenaires sociaux, syndicats comme entreprises, parce que je suis d'abord une femme d'entreprise et je sais d'où je viens. Ensuite, effectivement, avec Bruno Retailleau, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrés à l'occasion d'un voyage, un déplacement officiel de Monsieur Lecornu en Arménie. On a passé un petit peu de temps ensemble et moi, ce que j'aime avec Monsieur Retailleau, c'est aussi son... Voilà, c'est une colonne vertébrale. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais c'est une forme de colonne vertébrale. C'est un usage du verbe.
C'est la recherche du compromis, en fait.
C'est une forme de... Et puis, ça participe de la recherche du compromis. On peut avoir des histoires politiques différentes, et elles sont très différentes, effectivement, avec Monsieur Retailleau, mais on peut s'entendre aussi sur le besoin d'ordre, de sécurité et de justice régalienne.
Il y a quand même une interrogation sur le gouvernement qui est très, très pluriel. Il y a des questions qui vont être des urticants, notamment. Par exemple, est-ce qu'il faut remettre en cause le droit du sol à Mayotte pour vous ou pas? Est-ce que vous...
Je pense
vous dites...
que ça... juste pour revenir avec M. Retailleau, on travaille sur la question de la régularisation des sans-papiers, puisque nous devons signer ensemble une circulaire. On avait commencé à travailler pour
trouver une solution. Éditer d'une loi sur...
Oui, mais qui surtout... le problème de la circulaire Valls, il faut quand même regarder les choses précisément, c'est que ça obligeait la personne en situation irrégulière et qui travaillait de demander l'autorisation à son patron, d'être toujours dans la main du patron. Ce qui serait une véritable nouveauté aujourd'hui. grâce à la loi de pouvoir spontanément demander une régularisation sans être dans la main
mais
du patron.
Mais quand Bruno Retailleau disait qu'on n'avait pas besoin d'immigration économique, enfin vous voyez, là-dessus,
là, on a... que non, ça... Non mais là on discute. Parce
non
que
mais vous
effectivement...
vous proposez quoi du coup alors?
Ben moi ce que je vois, ce que, c'est que on a fait avec lui d'ailleurs une cartographie région par région des métiers en tension, et il y en a, et il y en a.
Et il a réalisé
de toutes,
qu'il y en avait.
Et il y en a. Je pense pas qu'il... Enfin, bien sûr qu'il l'a réalisé, mais enfin je pense qu'il n'avait pas besoin de cette cartographie, mais il a bien vu qu'il y avait des métiers en tension, tout niveau de qualification confondu, parce que un tiers de l'immigration économique, c'est quand même des ingénieurs et des élèves en master aussi, des personnes de niveau master. Et donc voilà. Donc
et
on,
la circulaire,
on avance sur la question.
Elle est publiée quand, la circulaire?
Alors, on doit y travailler pour fin février. Je me suis engagée auprès des partenaires sociaux. En ce qui concerne Mayotte, parce que je ne veux pas me défiler...
C'est un sujet important.
Oui, je pense que la question doit se poser vu, effectivement, la proximité avec les Comores et le fait qu'il y ait 60% de naissances dans la maternité de la capitale de Mayotte, de personnes qui viennent précisément pour pouvoir accoucher sur le sol français.
Merci Astrid Panossian-Bouvet. Bien sûr, vous restez avec nous. Il est temps d'accueillir notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Question politique. Karine Bécart.
Bonjour Jean-Noël Jeannenet.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur le plateau de questions politiques. Vous êtes historien. Je rappelle que vous avez présidé Radio France et Radio France Internationale. Et je rappelle aussi que vous avez été ministre, secrétaire d'État plus précisément, sous François Mitterrand au tout début des années 90. On vous a invité parce que vous venez de signer la préface du dernier livre de la collection Tract des éditions Gallimard. Son titre... Tenir la ligne, 40 dessins pour Charlie, 2015-2025, parce que cela fera 10 ans, mardi, dans deux jours, le 7 janvier, que le journal satirique Charlie Hebdo, que ses journalistes, que ses dessinateurs ont été massacrés par des terroristes islamistes. 10 ans déjà, et donc une question, 10 ans après, sommes-nous toujours Charlie? Serions-nous encore prêts à descendre dans la rue comme on l'a fait ce 11 janvier 2015 pour défendre la satire, pour défendre la liberté d'expression? C'est tout l'objet donc de ce livre. Vous y découvrirez 40 dessins signés de 40 dessinateurs du monde entier. Ça vient de Cuba, ça vient du Mexique, ça vient d'Algérie, de la France aussi bien sûr. Tous appartiennent au réseau international Cartooning for Peace, dessinons pour la paix. Jean-Noël Jeannenet, 10 ans après l'attaque de Charlie Hebdo, elle se porte comment, notre liberté d'expression, aujourd'hui en France?
Je pense que le chagrin et la détermination ne doivent pas être différents par rapport à il y a 10 ans, car les menaces sont effectivement les mêmes. Et si j'ai accepté de préfacer cette œuvre, je n'y suis pour rien, mais c'est pour apporter une contribution même menue à cette douleur qui demeure intacte et à cette conviction, c'est-à-dire qu'on est là au centre d'un défi de toute démocratie, c'est-à-dire la liberté d'expression et aussi le blasphème. Donc, je devais effectivement répondre à cette demande.
Mais elle est abîmée, cette liberté d'expression, aujourd'hui, ou pas? Ou simplement, il faut la... Elle est abîmée ou il faut la protéger?
C'est pire qu'avant. Ouais.
Oh, je pense pas que ce soit pire. On peut pas imaginer pire, mais je pense que, effectivement, le péril n'a pas diminué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je suis tellement heureux de saluer Cartooning for Peace. Mm-hmm. Vous savez que c'est une association qui a été fondée il y a une vingtaine d'années.
Par Plantu,
sous les auspices de Kofi Annan et avec le grand Plantu et qui a beaucoup développé son action. C'est une action de solidarité pour tous les dessinateurs et c'est un effort pour combattre constamment cette capacité de parler juste et de blasphémer. J'insiste beaucoup, c'est central.
On va en parler du droit au blasphème. On va parler de cette loi de 1881, parce que finalement, dans cette préface, ce que vous faites, c'est lui rendre hommage. C'est dire tout le bien que vous pensez de cette loi du 29 juillet 1881 qui défend notre liberté d'expression. On passe son temps finalement à être protégé par elle et on s'en rend même pas compte.
Oui, vous savez que j'ai quelques inclinations pour la Troisième République.
Vous avez écrit un livre magique dessus. Oui.
Et ce 19e siècle peut encore beaucoup nous inspirer, car la lutte pour la liberté de la presse, la liberté d'expression, a vu au centre la défense et l'illustration de la capacité des caricaturistes à parler haut et fort et à bousculer les pouvoirs en place et à affirmer des valeurs durables. Déjà sous Louis-Philippe, on avait publié un journal qui s'appelait La Caricature, avec Philippon et le très grand Daumier, le magnifique Daumier. On avait représenté Louis-Philippe en poire. Ça a été insupportable. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, à la fin des années 1870, en bousculant un gouvernement qui avait donné instruction aux procureurs de poursuivre tous ceux qui se permettraient de critiquer la religion lorsqu'ils sont arrivés. Ils ont en effet fait cette loi magnifique. Elle est magnifique à cause des finalités qu'elle a visées et des buts qu'elle a atteints, mais aussi à cause de la forme de cette éloquence magnifique. Et c'est très important qu'une cause majeure soit portée par une belle éloquence. Et on trouve effectivement exactement là le débat sur la nécessité, sur le blasphème. Le droit de combattre toute religion et le devoir absolu de défendre tous les individus qui seraient attaqués à cause de la protection de cette diffusion, de cette religion. On a un débat entre Clémenceau en particulier et l'évêque d'Angers représentant le Finistère qui est splendide. Mmh. Et quoi, dit Clémenceau, et quoi vous voulez nous empêcher de parler, vous voulez nous obliger à défendre Dieu? Dieu est assez grand pour se défendre tout seul, il n'a pas besoin de la Chambre des députés. Et l'évêque répliquait, mais si, Dieu n'a pas besoin effectivement de nous pour le défendre, mais l'homme doit défendre la religion. On est là au cœur de quelque chose de central. C'est absolument vital et nous devons nous le rappeler constamment. Donc, merci à la loi de 81 et merci à tous ceux qui en ont perpétué ensuite
la finalité et la philosophie. La liberté de s'exprimer à Nathalie qui bondit sur son fauteuil.
Vous êtes un homme de gauche et on a vu, entre la période de Charlie il y a 10 ans et aujourd'hui, un certain nombre de coupures entre une certaine gauche, qui est celle de Bernard Cazeneuve, de François Hollande peut-être, de Laurent Bouvet, et une autre gauche, qui est la gauche un peu LFI, qui a pris des distances en considérant que effectivement on ne veut pas rire de tout, qu'il fallait faire attention. Est-ce que ça vous désole ou est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait cette espèce de fracture, ou alors peut-être ne la constatez-vous pas?
Ce n'est pas normal, cela ne me désole pas, cela ne m'étonne pas, mais cela me chagrine beaucoup. J'appartiens en effet à une gauche universaliste, une gauche républicaine, et je crois que c'est une dérive grave que celle qui conduit à certains de nos compatriotes, situés à gauche ou à l'extrême gauche, à affirmer qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à une religion, si on a le droit de le faire, et c'est central par rapport à la démocratie, tout en protégeant toutes les formes de l'expression de la religion, bien sûr, qui nous a enrichis depuis toujours. C'est ça, la laïcité, elle est précieuse comme la prunelle de nos yeux.
Vous avez envie de réagir, Astrid Panosyan-Bouvet, je le vois également.
Oui.
J'ai dit que vous étiez une femme de gauche, hein, je vous ai présenté comme ça tout à l'heure, a été lancé le nom de Laurent Bouvet, qui a été votre mari, qui a été le fondateur du printemps républicain. Vous la comprenez pas, effectivement, cette gauche mélenchoniste, insoumise, citons-la en fait.
Non, parce que ça fait partie des combats historiques de la gauche, hein, la laïcité, la vocation universaliste. Voilà. C'est donc d'abord, moi, je suis très émue de partager le plateau avec Jean-Noël Jeannet parce que, comme je le lui ai dit, j'écoute religieusement son émission
sur France Culture.
Sur France Culture, voilà, non, le samedi matin.
Justement,
l'ironie. L'ironie et attentivement, mais aussi de ce que nous a rappelé Charlie, c'est que ce qu'on croit immuable est fragile, quoi. Et que le bonheur ne fait de bruit que quand il tombe.
Donc vous êtes en train de dire qu'on n'est plus complètement Charlie, là.
Et qu'il faut faire effectivement attention, et notamment à la jeune génération. Il y a un sondage de la Fondation Jean Jaurès qui va sortir après-demain, et il y a une progression de la population qui dit oui, Charlie a bien fait de publier ses caricatures, alors que ce n'était pas le cas il y a 15 ans. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quand même près d'un tiers ou 30% des jeunes entre 18 et 24 ans qui disent que Charlie n'aurait pas dû publier ses caricatures. Donc il y a la nécessité aujourd'hui de vraiment travailler auprès de la jeunesse de notre pays.
Non, mais il y a une partie de cette jeunesse, en fait, qui depuis longtemps est assise dans les cours aux côtés de jeunes musulmans, ou en tout cas d'origine musulmane, et en fait ils ont envie aussi de les respecter, de les protéger. Qu'est-ce qu'on leur répond aux jeunes qui pensent ?
Ben, ce qu'il faut dire, c'est que la laïcité protège tout le monde, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas, et que la liberté de blasphémer, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la tradition française et de nos modes de vie, et qu'à partir du moment où on commence à mettre des limites, ce sont des choses qui sont dangereuses pour les droits fondamentaux. D'où, je pense, absolument essentiel, au-delà des commémorations, de faire, par exemple, ce qu'a fait Valérie Pécresse en Île-de-France. Elle lance, là, à partir de début janvier, une initiative dans tous les lycées franciliens d'initiation et de pédagogie de ces lycéens qui avaient entre 8 et 12 ans, hein, à l'époque, des caricatures, en commençant à celle de Daumier du 19e siècle, jusqu'à Charlie, pour montrer que ça fait partie de la culture politique française. française, de l'irrévérence et de l'humour français. Et que c'est aussi une manière de parler politique en France.
Est-ce qu'on touche une limite, quand même, de la loi de 1881 Jean-Noël Jeannonnet, avec effectivement cette jeunesse qui ne comprend pas ce droit au blasphème.
Mais bien sûr, c'est un combat constant qui le demeurera toujours. Mmh. Mais c'est un devoir central pour l'ensemble de ceux qui enseignent les jeunes que de leur expliquer cela. Ce n'est pas évident, de fait. Le respect pour la religion, ce n'est pas évident, le blasphème, il faut l'expliquer. Je suis allé souvent dans des collèges pour le dire. J'ai été très frappé du fait que j'arrivais à toucher les esprits et les cœurs, à expliquer. Ça n'est pas simple. C'est désormais un devoir primordial pour tous ceux qui ont accès à un micro, une chaire, ou simplement qui sont présents dans une salle de classe. C'est fondamental et on y arrivera. Et on peut se reporter, vous parliez des deux gauches. Je ne crois pas qu'elles soient irréconciliables, mais c'est une autre affaire. Mais pour parler de l'auteur de cette formule, je crois que les propos de Valls et de Manuel Valls et de Bernard Cazeneuve à ce moment-là peuvent être repris tels quels et gardent toute leur force. Toute leur force. Revenez à ces discours, vous le verrez. C'est rudement dur, il faut le faire, il faut l'expliquer. C'est un très beau combat.
Une question très très courte, Françoise. Oui, non?
Oui, très, moi très ce qui m'inquiète un peu, c'est que la laïcité dite à la française est de moins en moins comprise à l'étranger. Est-ce que ça aussi, c'est un combat
à l'international?
On sort de la loi de 1881.
Notamment à Bruxelles comme à l'ONU.
Elle ne l'a jamais été dans le monde anglo-saxon. C'est une autre philosophie, ça n'est pas la nôtre. Nous préférons la nôtre et nous la croyons essentielle. Alors, battons-nous sans cesse. Ce petit livre que vous célébrez aujourd'hui est une étape importante et je crois qu'il faut par conséquent le diffuser.
Et donc, je vous remercie d'être venu en parler, Jean-Noël Jeannonnet. Je recommande effectivement vivement la lecture de ce petit livre de la collection Tract des éditions Gallimard. Je rappelle son titre, Tenir la ligne, 40 dessins pour Charlie. Merci à vous, Astrid Panossian-Bouvet. Et merci à toute l'équipe de Questions politiques, Fabienne Lemoyle à la rédaction en chef, Amaury Baucher pour la programmation. On reprend les bonnes habitudes en ce début d'année 2025. Je vous dis donc bonne fin de week-end et à la semaine prochaine.